David Abiker.
Bonjour mon cher David.
Bonjour Renaud, bonjour à tous.
Allez, on va parler football à deux jours du premier match de dimanche.
Nous dégoûter de la Coupe du Monde au Qatar, c'est un peu l'objectif des journaux ce matin. Gâcher la fête. Commençons par La Croix, pour le quotidien catholique, c'est le mondial de la polémique. Pour l'Obs, qui titre « Bon baiser du Qatar », c'est le mondial des pétrodollars, de l'esclavage moderne et des dégâts climatiques. Mondial au Qatar, le climat hors-jeu, c'est la une des dernières nouvelles d'Alsace. Coupe du Monde, la face cachée du Qatar, c'est la dépêche du midi. Courrier international choisit une couverture choc. Un émir qatari prend un ballon en pleine poire, c'est l'effet boomerang d'une compétition qui devait mettre en valeur un petit pays, mais qui braque les projecteurs sur ses turpitudes. Libération se fend d'une double page sur les tensions qui minent le champion du monde en titre, la France. Le comble de cette relation contrariée au foot par la vertu, c'est le site SoFoot qui propose à la une un publi-reportage sur une marque de vêtements de sport, laquelle marque explique fièrement pourquoi il faut boycotter cette Coupe du Monde. Tout est bon pour faire parler de soi.
Voilà, le Figaro est moins critique et il évoque une température qui monte timidement.
À Doha, au Qatar, ça n'est pas encore l'ébullition, nous dit le Figaro. La capitale Doha est calme. Il y fera 33 degrés aujourd'hui quand même. Il y a dans l'air 70% d'humidité, mais pas 100% de supporters dans les rues. Mais ne vous y trompez pas, poursuit le quotidien. Doha est prête pour les festivités. Dans les échos, deux pages qui vous parlent d'argent. 200 milliards d'investissements par le pays qui transforme cette Coupe du Monde en l'une des plus grosses opérations de relations publiques étatiques depuis longtemps. Focus également sur le pactole de la FIFA. En cette année de Coupe du Monde, les revenus de la FIFA bondissent de 766 millions de dollars à 4,5 milliards, démultipliés par les droits télé, marketing et la billetterie. Argent toujours avec ses annonceurs qui sont embarrassés, expliquent les échos. Les marques hésitent à déployer des dispositifs publicitaires, explique un expert centré sur cette Coupe du Monde associée aux polémiques. Les échos parlent d'un terrain glissant. En clair, on est une marque... Comment se montrer écologiquement vertueuse, tout en profitant des retombées médiatiques de l'événement? Eh bien, il faut attendre que la France se qualifie en demi-finale ou en finale. Un expert explique encore que si l'équipe se met à gagner, l'opinion va se retourner et les marques seront beaucoup plus à l'aise. Tout ont prévu d'ailleurs de dégainer à ce moment-là, quand la France marquera des buts. Autrement dit, le Qatar, c'est pas très vert, mais si la Coupe du Monde vire au bleu, on oublie tout.
Et le président de la République se rendra à Doha si la France est en demi, voire en finale.
Bah évidemment, hier Emmanuel Macron a appelé de Bangkok à ne pas politiser le sport. C'est ce que nous rappelle ce matin Le Point. Comme c'est
joli. Je vous sens taquin ce matin,
Écoutez, la phrase hérisse le poil de Libération qui estime le chef d'État à côté de la plaque. En réalité, le président qui pose dans le Figaro à côté de Boxer Thaï ne fait pas de politique avec le sport. Il fait de la réelle politique avec le sport. On ne politise pas le sport tant que ça ne rapporte pas. Quand ça rapporte politiquement d'aller au Qatar ou d'utiliser l'image de la Boxer Thaï pour montrer qu'on est soi-même politiquement très combatif, pourquoi se gêner? D'ailleurs, Macron l'a dit hier, les questions écologiques ou les droits de l'homme, il fallait se les poser au moment de l'attribution de l'événement. Voilà un joli dégagement chez Sarkozy et Platini qui récupéreront peut-être le ballon en touche. David Barou livre ce matin dans Les Échos un édito qui résume les contradictions françaises coincées entre la vertu et le résultat. Footballeurs et spectateurs ne sont pas responsables d'un choix politique fait par la FIFA il y a plus de 10 ans, dit-il. Et il a raison. Et Barou rappelle que naguère, l'Argentine organisa la Coupe du Monde, que le Brésil des favelas organisa la Coupe du Monde. L'Argentine, c'était une dictature à l'époque. Que la Russie de Poutine organisa la Coupe du Monde. Sans oublier la Chine et ses Jeux Olympiques d'hiver à la neige artificielle. En clair, que dit l'éditorialiste David Barou? Si ça fait si mal à votre petit cœur d'écolo d'aller jouer au Qatar, pensez-y plus tôt. Ça fait 12 ans que le pays a été choisi. Il fallait vous réveiller avant. Et puis, il pose cette question. Si vraiment c'est pas bien de jouer au foot dans les dictatures et les pays pollueurs, il faut le dire et ne plus programmer des compétitions dans ces pays. Ou alors, conclure utile, on accepte de jouer là où ça fait mal en espérant que ceux qui ne partagent pas toutes nos valeurs, quand je dis nos valeurs, c'est 10 pays européens, pas plus, hein, et on espère que ces pays évoluent.
Le Parisien Week-end, David, raconte ce matin l'histoire du ballon rond.
Alors le ballon, lui, il est innocent, a priori il ne fait pas de politique et il ne pollue pas en se déplaçant dans les airs, encore que. Son histoire commence avec la première Coupe du Monde en 1930, dont la finale oppose l'Uruguay à l'Argentine. Les deux équipes veulent jouer avec leur propre ballon. Alors c'est l'arbitre qui décide, une sorte de choix de Salomon. Une mi-temps avec le ballon argentin,
c'est pas mal,
l'autre avec le ballon uruguayen, ça se passera bien. Au départ, le ballon de foot, c'est le ballon de ce qu'on appelait au Moyen-Âge le ballon de la soule, une vessie de porc bourrée de plumes. Arrive ensuite la vessie de caoutchouc recouverte de cuir cousu, poids et taille plus ou moins réglementés, mais souvent en fin de match, le ballon rond ne l'était plus du tout. Pire, il pouvait peser le double de son poids, nous explique le Parisien Week-end. Une fois trempé, il se crève, se dégonfle, ses coutures blessent les joueurs. Il faut le graisser, le ballon. Des années 30 aux années 60, le ballon s'éclaircit peu à peu. Mais en 1970 au Brésil, le ballon monochrome devient bicolore. Le fameux ballon noir et blanc, toujours en cuir, il est pensé pour crever l'écran de télé. En 1986, le ballon tout cuir cède la place à un ballon synthétique. En 1996, l'Organisation internationale du travail révèle que 7000 enfants du Pendjab fabriquent chaque année 30 millions de ballons pour des sous-traitants d'Adidas, de Nike et consorts. Ça l'affiche mal. Le ballon rattrapé par les droits humains et par la politique. Celui du prochain mondial intègre des matériaux écologiques utilisant des encres et des adhésifs à base d'eau. Comme quoi, même la fabrication du ballon est devenue une affaire politique.
Voilà la revue de presse de l'avant-centre de l'équipe de Radio Classique, David Abiker, que nous retrouverons en pleine forme lundi. Merci David, je vous souhaite un excellent week-end. Dans un instant, Esprit Libre avec Cécile Cornudet et Jean-Marie Colombani. Mon petit doigt me dit qu'on va reparler Coupe du Monde, mais pas seulement. À tout de suite.